Je vous salue tous, si je ne vous ai pas salué en arrivant. C'est un plaisir de voir l'Église remplie un jour de vacances. Alors prions. Ô Seigneur, nous te demandons de bénir ces quelques moments de réflexion que tu nous donnes. Merci pour cette occasion. Ô Seigneur, aide-nous vraiment à comprendre ta parole, que ta parole vraiment parle à nos cœurs, à nos âmes. Aide-nous, Seigneur, d'être attentifs, de bien écouter. Aide-nous aussi, Seigneur, de mettre en application dans notre vie chrétienne de tous les jours. Merci, Seigneur, pour ton aide. Amen. Voilà, chers amis, j'ai eu à cœur, comme j'ai vu que vous avez plusieurs réunions sur la prière et que notre frère Jean-Luc vous a parlé sur le Notre Père, je crois que c'était au mois de juin, début juin. J'ai aussi à cœur de rentrer dans ce sujet et de méditer avec vous quelques versets de Matthieu, Matthieu 6, sur la prière et cette fameuse prière qu'on appelle le Notre Père, l'oraison dominicale. Eh bien, je vais placer le Notre Père dans son contexte, parce qu'on va comprendre à quoi Jésus s'attaque en donnant le Notre Père. Et je crois que ça, c'est très important. Parce qu'il veut corriger chez nous au moins trois fautes que nous commettons lorsque nous prions. Alors, je lis dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez déjà. Alors voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus s'oppose à deux sortes de prières. D'une part, les prières des hypocrites religieux qui prient pour se faire voir, se faire entendre, se faire remarquer. Et les prières des païens superstitieux qui pensent qu'à force de répéter les mêmes phrases, ils seront mieux exaucés. Et alors, il oppose à ces prières-là une prière modèle, le Notre Père, qui s'avère être une prière modèle de grande efficacité. Remarquez que Jésus n'a jamais dit qu'il faut réciter le Notre Père. Nous n'avons dans la Bible aucun exemple de quelqu'un qui a récité le Notre Père, même pas dans les Actes des Apôtres. L'autre évangéliste qui mentionne le Notre Père, c'est Luc, dans Luc 11, le verset 1 à 4. Et si vous lisez ce passage, vous remarquerez que c'est une version simplifiée du Notre Père révélée par Matthieu. C'est une preuve que les premiers chrétiens ne récitaient pas le Notre Père. Sinon, il aurait été complet. Et Jésus ne dit pas « priez ceci ». Il dit « priez comme ceci ». Comme il est dit au verset 9, « voici donc comment vous devez prier ». Jésus ne dit pas « voici ce que vous devez prier ». Voici comment vous devez prier. C'est très différent. Donc Jésus veut qu'on s'inspire de cette prière pour prier avec plus d'efficacité. Et c'est vrai que comme modèle de prière, Jésus nous donne ici une prière vraiment complète. Elle contient d'abord l'adresse, savoir à qui on prie. Il y a la louange, il y a l'intercession, il y a l'humiliation, il y a la confession, il y a l'engagement personnel et il y a l'adoration. C'est vraiment une prière en peu de versets, en peu de phrases qui est tout à fait complète. On peut dire aussi que c'est une prière libératrice qui libère. Chaque phrase nous libère de quelque chose, nous donne un sujet de délivrance. Alors nous avons vraiment raison de la méditer et ce que nous allons dire ce matin sera forcément incomplet parce que cette prière est tellement riche. On peut consacrer toute une conférence sur chaque phrase. Notre Père qui est aux cieux, voilà l'adresse. Notre Père qui est aux cieux. Et il faut savoir à qui nous prions. Et c'est bien lorsque nous prions que nous sachons à qui nous parlons. Parce que bien souvent, nous prions sans même réaliser à qui on parle. Quand on parle au roi, on ne parle pas n'importe comment. Et ici, c'est plus que le roi. Alors, il faut que l'adresse... C'est bien d'avoir l'adresse de la prière qui soit juste et précise. Quand vous envoyez une lettre, si l'adresse n'est pas bonne, la lettre n'arrive pas. Ou si vous mettez une autre adresse, elle arrive chez quelqu'un d'autre à qui elle n'est pas destinée. Et à l'heure actuelle, la notion de Dieu évolue terriblement. J'ai entendu la prédication de quelqu'un. Il invitait tout le monde à évoluer. Il faut évoluer dans nos mentalités. Et puis il a ajouté, Dieu lui-même évolue. Je dis ça, c'est quand même bizarre. Moi j'ai lu que Dieu ne change pas. C'est un problème actuellement, parce qu'on essaye de faire la synthèse de toutes les religions et de toutes les philosophies. Et pour beaucoup de gens, Allah ou Bouddha et Dieu, c'est à peu près pareil. Mais dans la Bible, on aime bien spécifier de quel Dieu il s'agit. Ils ne sont pas tous les mêmes parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes caractères, les mêmes attributs, les mêmes caractéristiques. Donc c'est bien d'être précis. Quel Dieu nous servons ? Est-ce que nous le savons ? Le réalisons-nous ? Et quand on voit les prières dans la Bible, les prières remarquables, elles commencent toutes par l'adresse. À qui on s'adresse ? Il faut savoir. Il faut savoir à qui on s'adresse. Comme Moïse, dans Nombre 27, il a dit « Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair. » Ah, quelle précision ! Salomon, lors de la dédicace du temple, a fait une prière vraiment remarquable qui se trouve dans 1 Roi 8. Il commence sa prière ainsi. « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas de la terre. » Voilà l'adresse. Là, on est précis, on sait à qui on parle. Souvenez-vous d'Élie, le prophète, sur le mont Carmel, devant les prophètes de Baal, quand il a voulu faire descendre le feu sur l'autel rétabli. Ça se trouve dans 1 Roi 18. Eh bien, sa prière commence par une adresse précise. Il dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Et vous savez ce qui s'est passé? Le feu est tombé sur l'autel et a tout consumé. Il est dit que le peuple tombe sur leur visage en disant « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Daniel a fait une prière remarquable au chapitre 9, qui est une des prières parmi les plus magnifiques dans la Bible. Et il commence sa prière comme ça. « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, toi qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Néhémie, au premier chapitre, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. » Lorsque nous précisons à quel Dieu nous parlons, cela nous aide dans notre foi, parce que nous nous rappelons des promesses de Dieu et on ne risque pas de sous-estimer le Dieu en quel nous croyons. Le mot « Père » est étonnant parce qu'il ne se trouve pas souvent dans l'Ancien Testament. Considérer Dieu comme Père est vraiment la nouvelle alliance déjà que Christ annonce. C'est un mot surprenant. Et Jésus aime employer l'adresse de Père quand il prie, parce que souvent il parle de mon Père ou votre Père. Ici, c'est notre Père. Alors, dans l'autre prière de Jésus au chapitre 17, la prière sacerdotale, il commence également la prière par Père. Et cela est vraiment étonnant, parce que dans l'Ancien Testament, l'idée se trouve que Dieu est notre Père. Mais il n'y a aucun exemple où quelqu'un prie Dieu en l'appelant Père. Et nous n'avons dans l'Ancien Testament que 4 versets sur tout l'Ancien Testament qui mentionnent que Dieu est Père. Donc c'est vraiment une nouvelle dimension de relation entre le chrétien et son Dieu, qu'il est possible par l'efficacité du sacrifice de Christ et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, je vous donne rapidement les 4 versets qui mentionnent Dieu comme Père dans l'Ancien Testament. C'est le psaume 103, le verset 13, qui dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et puis il y a ce texte dans Ésaïe 63, le verset 16, qui dit « C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. » Le théologien Scofield a fait un commentaire sur ce verset et il dit « Sur le plan collectif, le peuple d'Israël reconnaissait Dieu comme le Père de la nation. » L'Israélite, croyant, se savait sur le chemin du salut, mais l'Ancien Testament ne laisse voir chez lui aucune conscience d'une relation filiale et personnelle avec Dieu. Cette conscience de relation filiale est œuvre de l'Esprit opérant l'adoption grâce à la rédemption obtenue par le sacrifice du Fils. Comme il est dit dans Galates 4, verset 6, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Cette idée que Dieu est Père est très difficile chez beaucoup de croyants. Par exemple, les musulmans. Je dialogue beaucoup avec eux parce que ça m'aide personnellement à avoir de la patience et à ne pas m'énerver. Parce que c'est vraiment très difficile. Pour eux, Dieu n'est pas père et Christ n'est pas fils. Dieu n'a pas de fils parce que Dieu n'a pas de femme. Donc il ne peut pas avoir un fils. Et essayer de leur faire comprendre qu'il peut y avoir quand même des fils par adoption, il peut y avoir des fils spirituels, ne comprennent pas. Ça les dépasse. Et il faut vraiment beaucoup de patience et beaucoup de versets de la Bible pour leur faire comprendre que c'est une notion voulue de Dieu lui-même. Et ce n'est pas facile. Alors le troisième passage, c'est Malachie. N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Et puis il y a le dernier passage qui ne concerne pas Dieu, mais qui concerne le Fils. Et qui se trouve dans Ésaïe 9, le verset 5. Un enfant nous est né, vous le connaissez par cœur ce verset. Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors certains se sont posé la question, pourquoi est-ce que dans ce Notre Père, on ne parle que du Père ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Christ lui-même ? Et pourquoi on ne parle pas de l'Esprit Saint ? La réponse est claire. Toute la Trinité est dans notre Père. Et cela est surprenant. Parce que notre Père concerne toute la Trinité. Christ est appelé Dieu puissant, Père éternel. Et l'Esprit lui-même est Père. L'Esprit Saint est Père, puisqu'il est le géniteur de Jésus-Christ. Chaque Noël, on se rappelle ça, que Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Donc, l'Esprit est Père, il est Père de Jésus-Christ, Dieu est Père et Christ est appelé Père. Donc, toute la Trinité est inclue dans cette expression « Notre Père ». Et c'est vraiment le privilège du vrai chrétien qui est né de nouveau. Lui seul est appelé enfant de Dieu et peut appeler Dieu « Notre Père, mon Père ». Ce n'est qu'en Christ et par l'Esprit Saint que notre Père a pour nous chrétiens un sens complet. Alors, appeler Dieu Père nous délivre de toute distance avec le Seigneur. C'est pourquoi Christ emploie notre Père. Souvent Jésus emploie l'expression mon Père. Mais ici, pour la prière modèle, il dit notre Père. Parce que les chrétiens ne sont pas seuls, ils sont ensemble. L'ensemble des enfants de Dieu forme le nouveau peuple de Dieu. Il est issu de toute nation, de toute race, toute classe sociale. C'est à ce peuple qu'appartient le Notre Père. Notre, à nous tous qui sommes rachetés par la grâce, c'est une grande famille. Et Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, pas uniquement pour Israël, mais pour le monde entier, pour que les disciples évangélisent le monde entier. Les musulmans disent que Christ a été envoyé seulement à Israël et concerne seulement Israël. Et que Christ a annoncé quelqu'un pour le remplacer et pour le monde, c'est Mahomet. Mais heureusement, Christ a mentionné qui allait le remplacer. Ce n'était pas le pape non plus, c'était l'Esprit-Saint. Heureusement que Christ l'a mentionné. Alors, le christianisme se vit dans une communauté, c'est une grande famille, et nous avons une appartenance internationale en tant que chrétiens, cela est magnifique. Jésus l'a dit, je bâtirai mon église. Jésus a dit aussi, là où deux ou trois déjà sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et dans cette prière sacerdotale de Jean 17, il y a aussi cet intérêt communautaire qui est expliqué plusieurs fois. Et nous sommes inclus, nous, chrétiens du 21e siècle, nous sommes inclus dans cette communauté. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire nous, nous qui avons cru par leur parole. Donc nous sommes mentionnés dans la parole de Dieu. Nous sommes inclus afin que tous soient un. Et ça est magnifique. Donc notre Père nous délivre de vouloir vivre notre vie chrétienne en solitaire. Le Seigneur veut que nous puissions la vivre en communauté. C'est pourquoi ces prières, donne-nous, pardonne-nous, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Nous sommes un peuple. Et cela est magnifique. Et puis, dans cette adresse, il est spécifié notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire qui est aux cieux, qui est dans l'univers, qui est le créateur et le maître de l'univers. Sommes-nous conscients de cette grandeur de Dieu? Dans l'Ancien Testament, on parle souvent de l'Éternel des armées. Et les antimilitaristes n'aiment pas cette expression-là et réagissent toujours, l'Éternel des armées. Mais de quelle armée parle-t-on dans l'Ancien Testament? Il ne s'agissait pas d'armées terrestres, c'est des armées célestes. D'ailleurs, c'est mentionné, des armées célestes. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre comme armée céleste? C'est l'étendue céleste, les étoiles, les planètes, les constellations. Quel émerveillement! On a envoyé Kepler et Hubble. Et on a découvert des choses extraordinaires, extraordinaires. Aujourd'hui, grand nombre de savants pensent qu'il y a eu une création initiale. Parce que tout ce qui a été créé selon le même plan. Et même ce qui se trouve à des milliers d'années-lumière, loin de nous, est créé selon le même processus de fabrication que notre constellation. Notre Père n'est pas n'importe qui, c'est le Dieu de l'univers. Après, une adresse aussi merveilleuse et aussi complète, pour ne pas qu'on se trompe de Dieu et qu'on sache bien à qui on parle et qui nous entend et qui va nous répondre. La prière continue avec trois phrases qui concernent Dieu. Et cela est étonnant, que le Notre Père contient des prières qui concernent Dieu. En premier Dieu, avant d'exprimer notre propre intérêt, notre pain quotidien, etc. C'est un peu comme les 10 commandements. Souvenez, les 10 commandements, les 4 premiers commandements ne nous concernent pas, ils concernent Dieu. Et les 6 autres commandements, oui, nous concernent l'homme. Et je crois qu'il y a là une grande leçon pour nous. Parce que souvent dans la prière, nous cherchons notre propre satisfaction avant la satisfaction de Dieu. Et alors, ces trois phrases méritent quand même notre réflexion, notre attention, pour savoir ce qu'elles veulent vraiment dire. La première phrase, c'est « Que ton nom soit sanctifié ». Bon, c'est un pieux souhait, un vœu, même un engagement de notre part, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit sanctifié dans le monde, qu'il soit sanctifié parmi le peuple de Dieu, qu'il soit sanctifié dans ma vie personnelle, c'est-à-dire qu'il soit reconnu, reconnu comme saint, qu'il soit honoré, qu'il soit respecté, et je veux qu'il en soit ainsi dans ma vie. Voilà ce que je dis au Seigneur en premier lieu. Et c'est vrai que dans la Bible, plusieurs versets nous encouragent à faire des vœux à l'Éternel, et puis pas seulement à faire des vœux au Seigneur, mais aussi à les accomplir. Psaume 76, le verset 12 dit « Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. » Donc lorsque nous disons à Dieu que ton nom soit sanctifié, nous disons en fait, on verra dans notre vie, dans nos paroles, dans nos actes, le reflet de la sainteté de Dieu. Ça, c'est quand même très conséquent, très conséquent. C'est poursuivre dans notre vie ce qui honore Dieu et abandonner ce qui le déshonore. Et souvent, nous avons des décisions à prendre devant le Seigneur au fur et à mesure qu'on avance dans sa volonté. Mais nous ne tenons pas toujours nos engagements. Pourtant, il n'y aura de progrès spirituel pour nous que dans la mesure où nous tenons nos engagements envers le Seigneur. Donc, prier que ton nom soit sanctifié nous délivre de beaucoup de négligences spirituelles. La deuxième phrase qui concerne Dieu, que ton règne vienne. Nous en avons bien parlé grâce à l'introduction de notre frère Daniel. Que ton règne vienne. Voilà un autre souhait vraiment pieux. L'état du monde actuel, on en a parlé. Il nous pousse à dire, Seigneur, reviens au plus vite. Viens régner sur ce monde pourri. Et la Bible dit qu'il vient le règne de Christ. Et la capitale de ce royaume, ce ne sera pas Rome. La capitale de ce royaume, ce ne sera pas Bruxelles, ou Washington, ou Hong Kong, ou la Mecque. Ce sera Jérusalem. Et cela est très étonnant. En effet, un peuple déjà est revenu et revient encore dans son pays d'origine, la Palestine, peuple avec qui Dieu va reprendre ses relations parce que ce peuple n'a pas accepté Christ. Et un peuple qui, après bien des épreuves, va se convertir à celui qu'ils ont percé. C'est prophétique dans la parole de Dieu. Et ce peuple va pleurer comme on pleure sur un fils unique. C'est le prophète Zacharie qui révèle cela. Et ça, c'est magnifique. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Il y aura donc une vraie conversion caractérisée par une vraie contrition. Et ça sera un grand signe pour le monde entier. Alors Christ instaurera son royaume dans ce monde Et ça viendra parce que les choses s'annoncent. Mais là aussi, quand on dit que son règne vienne, il ne faut pas seulement voir au loin, il faut voir aussi tout près. Si le règne de Dieu vient dans le monde, il veut aussi venir sur le plus petit centre du monde que je connaisse moi-même. Le règne de Christ doit venir dans mon cœur, dans ma vie. Dieu veut régner sur nos affaires, sur nos projets, sur notre famille. Et le Seigneur ne régnera pas comme le roi des Belges, qui n'a aucun pouvoir. Non, ce ne sera pas un règne folklorique. Non, tout genou fléchira. Ce sera un vrai règne. Fernand le Grand a dit cette belle phrase: quand Christ reviendra, il prendra le législatif et l'exécutif. Et en attendant, c'est ainsi qu'il veut déjà régner dans nos cœurs. Alors que ton règne vienne, oui, cela nous délivre de notre volonté à diriger seul notre vie à notre façon, selon nos conceptions, mais à nous soumettre au règne de Christ. Troisième phrase, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Oui, voilà encore une prière qui concerne Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On peut dire qu'au ciel, la volonté de Dieu se fait déjà. Les anges, en dehors bien sûr des anges déchus, les anges obéissent à Dieu. L'univers fonctionne selon les lois établies par Dieu depuis peut-être des milliards d'années. Il n'y a pas de heure. Tout est réglé à la seconde près, à la centième de seconde près. C'est ce qui d'ailleurs trouble ceux qui ne croient pas en Dieu. Déjà Voltaire était troublé. Lui qui ne voulait pas croire en Dieu. L'univers m'embarrasse. Je ne puis croire qu'une telle horloge fonctionne sans horloger. Ah. Mais c'est vrai. Ce qui a fait dire à Ralph Chalice, que j'ai connu personnellement et que j'ai bien apprécié de son vivant: il faut beaucoup de foi pour être nathée. Il y a un très beau livre de Ralph Chalice qui porte ce titre. Il y a donc dans l'univers apparemment qu'une seule planète où l'exercice de la volonté de Dieu pose problème. C'est une planète qui est habitée par des irréductible terrien, on peut dire. Et pourtant, c'est là que Dieu a envoyé un exemple d'obéissance magnifique, Jésus-Christ. Car du début à la fin, Christ n'a jamais manqué d'accomplir la volonté du Père. Au début, quand Dieu l'a désigné pour racheter le monde, il n'a eu qu'une parole: me voici pour faire ta volonté, selon Hébreux 10. Et vers la fin, quand il savait ce qui l'attendait et qu'il combattait spirituellement dans le jardin de Gethsémané, il a eu cette phrase: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ta volonté, voilà ce qui compte. Que ta volonté se fasse. Et il ira jusqu'au bout de sa dernière parole sur la croix qui sera: tout est accompli, c'est-à-dire toute la volonté de Dieu est accomplie. Ça, c'est quand même extraordinaire, y compris celle pour notre salut. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Elle est dans la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu nous la communique. La liste des versets sur la volonté de Dieu pour nous, elle est longue. C'est impossible de mentionner tous les versets. Et il y en a pour notre façon de vivre, pour nos projets, notre bonheur en général. Et il y a les choses fondamentales sur la volonté de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit dans son discours à l'Aréopage à Athènes, dans Acte 17, Dieu a voulu que tous les hommes cherchent le Seigneur. Il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc le point de départ de la volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'on cherche le Seigneur et qu'on se réconcilie avec lui par le moyen de la repentance. Ce passage dans Jean 17, la prière sacerdotale, Jésus exprime la volonté de Dieu. Tu as donné pouvoir sur toute chair à ton Fils afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La volonté de base de Dieu, c'est que le sacrifice de Christ nous serve à avoir la vie éternelle, l'assurance du ciel par le moyen de la foi. Et toujours dans cette prière au chapitre 17 de Jean, il dira: Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. La volonté de Dieu pour le chrétien, c'est qu'il ait un avenir, une vie après la vie, une espérance vivante. Et pour le reste, dans Jean 17, dans cette prière, Jésus exprime encore la volonté de Dieu pour la marche chrétienne, la sanctification, le témoignage, l'unité des chrétiens, etc. Alors, ne pas s'accorder avec cette volonté magnifique de Dieu, ça voudrait dire qu'il est inutile de dire que ta volonté se fasse, puisque nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Que ta volonté se fasse, oui Seigneur, et nous la recherchons, et nous obéissons, et nous nous y soumettons. Qu'elle se fasse dans le ciel, comme sur la terre, comme dans ma vie. Que ta volonté soit faite, nous délivre donc de tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, et que ce monde, bien sûr, nous influence bien trop souvent. Je vais terminer là cet exposé. Il est vrai que cette prière est tellement riche qu'on ne peut pas s'arrêter. On pourrait encore parler des heures, n'est-ce pas? J'ai mis sur Facebook un chant d'Elvis Presley. Ça, c'est incroyable. Moi qui le suis, n'ai jamais été fan. Je trouvais ces garçons plutôt orgueilleux. Mais Elvis Presley a eu au début une période évangélique. Je ne sais pas si vous saviez ça. Ce sont les chants gospel qui l'ont rendu connu au début. Et il a fait plusieurs disques avec rien que des chants gospel. Et il y en a certains que nous chantons encore aujourd'hui. Quand nous chantons Dieu Tout-Puissant, il faut l'entendre chanter par Elvis Presley, c'est beau. Et quand il chante Dans le jardin où j'aime entrer, un grand classique aussi du gospel. Moi, j'ai appris ce chant-là avec Simone et Jacqueline, qui ont chanté ce chant-là, vous deux ensemble, accompagnés à la guitare, dans le jardin où j'ai montré. Magnifique chant. Il y a d'autres chants, comme celui « Vieille croix ». Vous connaissez ce chant? Il est dans « Vieille croix ». Il n'est pas peut-être moins connu, il n'est pas dans nos fleuves d'eau vive, il est dans le recueil des chœurs et cantiques. Ben voilà des chants qui sont quand même très connus et très, très chantés encore aujourd'hui. Il y a évidemment « Amazing Grace » et plusieurs autres chants. Eh bien, il y a un chant où Elvis Presley dit « Nous l'invoquons, nous l'invoquons, nous invoquons le Seigneur ». J'ai cherché toutes les paroles de ce chant. Je l'ai mis sur Facebook, vous le trouverez si vous avez mon Facebook. Et alors, j'ai cherché les paroles de ce chant et j'ai demandé à Google de les traduire. Et j'ai eu la traduction par Google. Alors je vous le lis. Nous l'invoquons chaque fois que des nuages d'orage s'amoncellent. Nous l'invoquons pour éclairer notre jour le plus sombre. Et là, nous invoquons le Seigneur. Pourquoi faut-il que seulement lorsque nous sommes seuls et que nos espoirs sont faibles, pourquoi faut-il qu'alors nous l'invoquions? Alors le refrain dit, pourquoi ne l'invoquons-nous pas avant de nous égarer? Pour compter nos bénédictions et le remercier tant que nous le pouvons. Ouais. On s'égare et alors on crie, Seigneur, Seigneur, montre-moi le chemin. On aurait pu demander le chemin au Seigneur avant de partir, n'est-ce pas? C'est une grande vérité, non? Deuxième strophe. Nous l'invoquons quand personne d'autre ne répond. Nous lui demandons une raison de continuer. Quand notre coupe de joie devient une coupe de chagrin, remplie à ras-bord, là, nous l'invoquons. Pourquoi ne l'invoquons-nous pas avant de nous égarer, pour compter nos bénédictions et le remercier tant que nous le pouvons? Et oui, ben voilà, c'est vraiment une très belle prière, une très belle réflexion que je vous laisse, parce que le Seigneur voudrait que nous ayons cette attitude envers lui dans notre vie de prière. D'abord, sa satisfaction à lui et la nôtre après. Et nos satisfactions temporelles, occasionnelles, ont moins d'importance que la présence du Seigneur constante dans nos vies. Et voilà qui devrait nous aider, comme le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, de prier constamment. Comme Paul l'a dit dans Thessaloniciens, prier sans cesse. Oui, ça peut nous amener à avoir une vie de prière complète et vraiment qui nous apporte quelque chose dans notre vie spirituelle, qui nous apporte le progrès dans notre relation avec le Seigneur. Une autre fois, nous verrons les deux derniers versets de cette prière qui est vraiment très riche. Prions. Ô Seigneur, merci pour cet exemple que tu nous as donné. Combien, Seigneur, c'est vrai que lorsque nous prions, nous t'oublions. Combien c'est vrai, Seigneur, que nous te prions en cas de besoin. Nous t'appelons quand nous avons besoin de toi. Ô Seigneur, nous voulons que notre vie de prière soit constante. Nous voulons une vraie relation avec toi, le Père. Nous voulons, Seigneur, grandir dans cette dimension, dans cette relation. Nous voulons grandir, Seigneur, en communion avec toi. Ô Seigneur, nous te demandons que vraiment ton esprit nous aide, que ton esprit parle à nos cœurs ce matin, et que nous puissions vraiment être appelés enfants de Dieu parce que nous vivons avec toi, parce que nous t'avons constamment avec nous et nous te parlons constamment. Ô Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous as donnée ce matin de réfléchir sur ces choses. Merci Seigneur, à toi nous donnons toute la louange. Fais ton œuvre dans nos vies. Merci Seigneur. Amen.